Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Merci, c'est sympa.
Non, pas de problème, mon grand. Où tu vas ?
Je vais voir ma mère à l'hôpital.
Quoi, elle est malade ?
Sortie de l'imaginaire de Stephen King.
C'est pas ce que j'aurais fait si je ne t'avais pas eu.
Au sommaire aujourd'hui, une émission intitulée « Du livre à l'écran ». Soit une heure autour de la question de l'adaptation d'un ouvrage au cinéma. Une heure que nous passerons entre autres en compagnie de Thierry Auger, auteur et éditeur de Home Sweet Home, les maisons hantées de la littérature au cinéma. Également au programme, deux adaptations qui sont sorties récemment chez deux de nos éditeurs préférés, Riding the Bullet de Mick Garris, d'après Stephen King, disponible chez BQHL, Dressé pour tuer de Samuel Fuller, d'après Romain Gary, et ça c'est chez ESC. L'équipe de Culture Prohibée remercie Isée Régnier et François Villa pour leur aide sur cette émission. Pour causer livres et cinéma, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demey, dit la Bête Noire, de Compiègne, un archéologue animal, enquête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chiméra Tech, disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Rolandi, le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour RCA. Salut Thomas.
Salut Jérôme, salut Damien et bien évidemment salut à toutes.
Bonjour Thierry Auger.
Bonjour.
Thierry, vous êtes avec nous pour l'ouvrage Home Sweet Home, les maisons hantées de la littérature au cinéma, alors qui est disponible dans la boutique en ligne des films de la Gorgone, hein, lesfilmsdelagorgone.fr. On avait déjà parlé il y a quelques temps d'un bouquin sur la fantasy, hein, qui était un bouquin assez pareil sur un sujet assez peu traité sous forme de bouquin assez complétiste, assez exhaustif. Et là, donc, tu récidives, en fait, Thierry, avec cet ouvrage donc sur les maisons hantées. Tout d'abord, avant qu'on rentre dans le détail de l'ouvrage, est-ce que tu peux nous présenter, parce que c'est toi le grand artificier, si j'ose dire, mais tu as quand même une équipe sur laquelle tu t'appuies et qui a rudement bien travaillé pour cet ouvrage.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai un peu repris l'équipe de By the Sword, donc mon précédent bouquin il y a 5 ans maintenant sur l'heroic fantasy au cinéma. Et donc en fait c'est l'équipe un peu que tu connais aussi, pas mal de personnes du fanzine notamment,
David Didlo, Jérôme Ballet,
Black Lagoon, pardon, excuse-moi, donc avec notamment Augustin Meunier à la réalisation de la maquette, donc un des concepteurs du fanzine, qui a fait quelques chroniques aussi, notamment de House, de la saga House, une vieille saga des années 80, et qui a fait la maquette du bouquin. Donc Jérôme Ballet aussi, pour la partie italienne. Adrien Vaillant pour la partie, je dirais, plutôt asiatique. Et puis, effectivement, quelqu'un que tu connais bien, David Idlo, qu'on ne présente plus, qui m'a fait un dossier, à qui j'ai demandé de faire un dossier sur Amityville, parce qu'en fait, c'est quand même un des spécialistes du sujet. Et il avait déjà fait d'ailleurs un vidéotopsie spéciale Amityville. Cette équipe-là, je les ai repris. Qui m'ont aidé à concevoir ce bouquin sur l'adaptation au cinéma des maisons hantées, notamment en partant de la question des livres à l'origine de ces adaptations.
Et justement, pourquoi avoir choisi de partir des livres, ce choix éditorial, donc on peut dire. Un choix éditorial qui va du livre à l'écran, hein, voilà, on part des grands livres de maisons hantées, puisque c'est vrai que c'est un sujet, on en reparlera après, qui a alimenté beaucoup de littérature. Pourquoi ce choix, donc, mon cher Thierry ?
Ça me semblait un peu évident, dans la mesure où, en parlant des adaptations, je me suis rendu compte qu'on avait quand même une matrice littéraire, et donc j'avais envie de montrer... de quoi on partait vraiment, donc de cette origine relativement ancienne. Et puis en plus, comme j'ai fait des études d'histoire, j'avais envie de mêler ça un peu au côté historique, en expliquant un peu les débuts, d'où vient un peu la question des maisons hantées, la hantise en général. Et du coup, j'ai lu les livres principaux, en fait, sur le sujet, il y a les principaux, on va dire, les plus connus, ce soir, Le Tour d'écrou d'Henry James, The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, ou Edgar Poe, La Chute de la Maison Usher. Donc, en fait, c'était un peu ce qui m'a inspiré. Ce ne sont pas forcément des livres très longs ou des petites nouvelles. Et ce qui m'intéressait, c'était un peu de les remettre en lumière et puis surtout de voir leurs différentes adaptations. Puisqu'en fait on a toute une litanie d'adaptations ciné. Souvent les premières sont les plus connues, les plus réussies, et puis après on a tout un pan filmique qui n'est pas forcément toujours intéressant, mais ça me permettait de voir surtout l'évolution et puis comment la retranscription du papier à l'écran avec les différences potentielles et de mettre des fois en avant quelques films inconnus.
Tu fais remonter à l'Antiquité le phénomène des lieux hantés. Alors, dans la croyance populaire, on va dire que le phénomène de hantise, en tout cas, aurait toujours existé. Donc, y compris, on peut imaginer, via la transmission orale, même bien avant que la littérature s'en empare et se démocratise.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, dans le livre, une fois que j'ai un peu fait le détail de tous ces livres avec toutes leurs adaptations. Après, je parle d'autres phénomènes peut-être plus populaires, issus effectivement, comme tu disais, du langage oral ou de la mythologie un peu quelque part, et notamment dans un chapitre qui s'appelle « Based on the true story », c'est-à-dire effectivement un peu issus de phénomènes qui se seraient produits, de vrais phénomènes dont on a tiré des adaptations au cinéma. Et donc effectivement, par exemple, Amityville est un des plus grands, plus célèbres adaptations. Et donc effectivement, il n'y a pas que le début du livre, il y a un côté chronologique, historique, avec les livres les plus célèbres, et ensuite d'autres sources, en fait, qui ne seraient pas que forcément littéraires.
Je vais revenir à ce qui est littéraire, parce que tu en as un peu parlé tout à l'heure, justement. Je rappelle l'ouvrage, hein, Home Sweet Home, les maisons hantées de la littérature au cinéma. Et tout à l'heure, tu parlais de Shirley Jackson, Edgar Allan Poe, Henry James. Bon, il y a aussi Richard Matheson. Enfin, tous les auteurs importants, en fait, sont présents dans l'ouvrage. Et selon toi, donc, tu disais que tu avais pas mal lu, relu. Quels sont les auteurs qui ont le mieux écrit sur le sujet ?
Ouais, alors après, je sais pas si j'ai la capacité d'avoir cette réflexion-là, mais c'est vrai que, après, j'aime bien, par exemple, The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, qui est relativement contemporain, ça date de 1957, qui est une hantise peut-être qui nous parlerait plus, et moins avec des chercheurs à paranormaux qui vont dans une maison. Voilà, après c'est vrai que les premiers livres, La chute de la maison Usher, c'est une petite nouvelle d'Edgar Allan Poe qui finalement en très peu de pages confine à la hantise par le biais d'une maison et de son occupant qui est un peu neurasthénique. Moi, je pense qu'en fait, toutes les sources littéraires sont intéressantes, ce soit le Tour d'écho d'Henry James, ce sont très connues finalement, et puis elles ont irisé un cinéma, que ce soit donc de l'adaptation classique, voire après dans le cinéma plus contemporain, horrifique. Mais non, j'ai pas de. Je pense que tous les livres que j'ai donc que je mentionne sont vraiment intéressants. Jusqu'au finalement le plus connu sans doute Shining de Stephen King, dont l'adaptation par Stanley Kubrick reste un des monuments de l'histoire du cinéma.
Écoutez Culture Prohibée.
C'est un cas à part, Shining, quand même, parce que Shining, c'est un immense film, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, qui a subi, enfin, qui a pas subi d'ailleurs, parce qu'ils sont tous très bons, qui a différents montages et qui sont tous sensationnels. Et ben King, il a quand même ouvertement renié ce film, et assez étonnamment. Alors il s'en explique en disant que c'est parce que le personnage féminin était très fort dans son livre et qu'il l'est pas du tout dans le film, qu'il trouve que c'est une trahison de son livre dans ce sens-là. En même temps, on peut se dire entre nous que King a déjà été beaucoup plus mal adapté quand même. Donc qu'est-ce que tu penses, toi, de ce débat, de cette étrange réaction de Stephen King, parce que le film est quand même exceptionnel.
Oui, effectivement. Alors après, je pense que Stephen King, il a une personnalité assez forte, que sans doute, peut-être qu'il en a pris un peu pour son ego, parce que effectivement, la qualité du film peut-être va peut-être au-delà de la qualité du livre. J'en sais rien. Je sais pas. Il faudrait en débattre, mais en tout cas, il donne une autre version, il l'adapte. Alors, j'imagine que toutes les adaptations de films sur une sur littéraire sont forcément on trahit forcément quelque part. Là, le choix, le parti pris de Stanley Kubrick n'a pas visiblement plu à Stephen King. Néanmoins, je trouve que il a amélioré, en tout cas dans les grandes largeurs, ou en tout cas donné une autre aura au livre, et notamment, je dis ça parce que l'adaptation personnelle de Stephen King, qui a pris une mini-série qu'il a faite après, qui serait plus proche de ce qu'il aurait aimé voir à l'écran, et peut-être en deçà de l'œuvre de Kubrick. C'est difficile de comparer, mais effectivement, je pense que Stanley Kubrick a donné une dimension différente, mais tout aussi, encore plus forte au livre de Stephen King, quoi. Donc,
ouais. Oh, je suis assez d'accord avec toi. Après, comme tu le disais dans ta réponse, une bonne adaptation, c'est une trahison. Donc, on ne peut pas rester. Le livre est exceptionnel. Hein. Moi, je me rappelle ne pas décrocher la nuit et lire le livre de bout en bout, qui est un pavé quand même. Et le film est exceptionnel. Et puis, ce sont deux médias différents, j'ai envie de dire. Mais bon, je pense aussi que tu l'as dit, Stephen King, personnalité très forte. Mais Stanley Kubrick aussi, donc je pense que ça a été, je pense qu'il a aussi pas mal été écarté du processus créatif, tout ça. Enfin, je pense que c'est quelque chose d'assez complexe. Mais aujourd'hui, on voit quand même que King, quand on lit Dr. Sleep, il a aussi intégré des choses de l'univers de Kubrick à son univers littéraire. Donc il n'y a pas non plus un vrai rejet du film, quoi. C'est plus ambigu que ça.
Oui, certainement. Je pense qu'on n'a pas tous les tenants aboutissants. Effectivement, Stanley Kubrick, c'était quelqu'un aussi d'encore plus particulier que Stephen King. Ils se sont peut-être pas entendus et il a, j'imagine, pas apprécié les changements, comme tu disais, de personnages et puis la fin aussi qui modifiait. Néanmoins, je pense que dans l'absolu, au fond lui-même, Stephen King est sûrement très fier au fond quelque part de cette adaptation, parce que effectivement, les autres adaptations de Stephen King ne sont pas les plus mémorables, hormis peut-être les mini-séries ou téléfilms qui ont été faites, par notamment Mike Flanagan, mais globalement, Shining reste une des meilleures adaptations rejetées par son auteur. Bon. Voilà.
Et Flanagan d'ailleurs, bon, qui évidemment, il n'a pas fait que du cinéma. Bon, il a fait Dr. Sleep d'ailleurs. Il a fait l'excellente suite de Shining, qui est sous-estimée, hein, mais qui a énormément travaillé sur Charlie Jackson, tout ça. Flanagan, lui, c'est vraiment un passionné des histoires de maisons hantées, en vérité.
Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je parle de dans le livre. Je fais une petite donc normalement, je parle exclusivement des films, mais j'ai fait une petite aparté sur la série adaptée justement du livre de Charlie Jackson par Mike Flanagan, parce que c'est une série que j'avais beaucoup aimée. Et pareil, qui est une adaptation, et donc on retrouve les personnages principaux de l'œuvre, néanmoins, qui ont été actualisés, mis au goût du jour, je dirais, avec des accents plus contemporains. Et pour autant, moi, c'est une des meilleures adaptations du livre elle fait partie des meilleures adaptations en mini-série, enfin, que je conseille vraiment. Il y a des épisodes qui sont fabuleux en termes de frayeur et même de mise en scène. Donc voilà. Donc je pense que le média finalement a peu d'importance à partir du moment où on saisit l'essence du récit et de l'œuvre.
On est d'accord. On avait consacré un peu de temps dans l'émission à parler de Flanagan et à ses adaptations, entre autres de Charlie Jackson, voilà, qu'on trouve aussi très très réussi. Et parfois on fait aussi des incartades au 7e art pour parler série, ça nous arrive. Tu as bien fait de le faire dans cet ouvrage, donc Home Sweet Home, les maisons hantées de la littérature au cinéma. L'ouvrage s'intéresse à il développe des thématiques aussi qu'on voit pas toujours, hein, ou dont on parle assez rarement au sujet des films de maisons hantées. Alors une qui est un peu moins rare peut-être, c'est celle sur les films asiatiques, mais sur les fantômes d'Asie, quoi, hein. Mais moi j'ai remarqué un truc, truc, par contre, il y a une particularité. Alors, c'est dû à leur culture, hein, aux Japonais, hein, mais parce que qu'on se remémore l'histoire d'Abe Sada, tout ça. Enfin, il y a la femme vengeresse, c'est quelque chose de très très fort. Hein, mais au Japon, il n'y a pas de film de poltergeist en fait. Il y a que des films de fantômes, de femmes qui se vengent quasiment, ou d'hommes qui se vengent, hein, d'ailleurs, hein, comme dans l'Empire de la Passion d'Oshima. C'est quelque chose typique du Japon. Il y a vraiment, selon les pays en fait et selon les origines des films, de vraies particularités dans le traitement du thème de la hantise.
Oui, c'est vrai. Non, mais sur effectivement en Asie, alors. Le chapitre sur la vie, le livre entier, dans la mesure où je pense qu'il y a des centaines de films de maisons hantées, globalement, la hantise sous toutes les formes existe au Japon. Effectivement, je pense que la figure de l'esprit, du fantôme, est quelque chose de prégnant dans la société asiatique. Alors, une particularité au Japon, tu en parlais, mais il y a aussi la question... des maisons qui sont... Il y a beaucoup de maisons, alors, en cherchant un peu, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de maisons abandonnées au Japon, et du coup, qui génèrent des questions... La figure du fantôme qui reviendrait dans sa maison abandonnée. Et donc, il y a toute une tradition du cinéma, alors même de la vie en général, et puis des adaptations théâtrales, littéraires, et au cinéma, au Japon, liées du coup à ces maisons qui seraient délaissées, abandonnées, quoi. Et donc, voilà. Et si j'avais un film à recommander japonais, ce serait pour moi un réalisateur que j'aime beaucoup, c'est Kiyoshi Kurosawa, qui est connu pour par exemple Cure ou Kairo, et son film Sweet Home, qui est pour moi un des meilleurs films de maisons hantées, et vraiment assez gore en plus. Et c'est un réalisateur qui n'est pas forcément très connu, et ce film-là, dans sa filmographie, qui est de 1989, mais quelque part, pour moi, un des meilleurs.
Je suis assez d'accord avec toi. C'est un réalisateur qui est souvent aussi un peu mal aimé dans une époque où on aime que tout aille vite et avoir des réponses rapides. C'est un réalisateur qui prend son temps, qui peut être assez contemplatif, qui peut être aussi très dérangeant de ce fait. Donc, on aime beaucoup. On valide, comme dirait l'autre. En plus, moi, j'ai pu le voir sur le grand écran. Donc, ce film-là, ouais. Donc, j'en garde un souvenir. C'est un film vraiment effrayant, en fait, en vérité. Voilà.
À l'image de sa première partie où elle a fait beaucoup un peu de série B, de films un peu d'exploitation comme ça, et c'est vrai que les derniers films qu'on a pu voir sont plus contemplatifs, sont fantastiques, plus évanescents, mais effectivement il a deux parties de carrière, et dans cette première partie là pour moi Sweet Home, c'est un film qu'il faut voir.
Vous écoutez Thierry Auger, auteur de Home Sweet Home, au micro de Culture Prohibée.
Intéresse aussi dans l'ouvrage à quelque chose qui est un genre qui est en fait rarement abordé. Il y a déjà eu quelques dossiers dans l'écran fantastique, ça, mais ça remonte à des dizaines et des dizaines d'années. C'est la parodie en fait du film de maison hantée, qui est en fait un genre assez fourni. Et d'ailleurs, tu déterres un film de Neil Jordan qui n'est pas son plus connu, hein, dont on a un peu oublié, qui est un film assez sympathique, qui s'appelle High Spirits. Cette volonté de parler des parodies, alors c'est une sorte de parenthèse dans le livre, mais. C'est aussi une manière de faire remarquer que le fantastique, la peur, la terreur, en tout cas, le grotesque parfois, ne sont jamais parfois loin de l'humour en vérité.
Oui, tout à fait. Bah, en fait, dans le genre fantastique, on est toujours à la frontière un peu de l'horreur et du ridicule. Et quelquefois, on peut effectivement tomber sur... forcément, tous les genres, je pense, c'est un peu la reconnaissance aussi, hein, d'avoir une parodie, c'est un peu la reconnaissance du style, mais voilà. Et donc, effectivement, j'avais envie, comme j'avais fait un peu dans mon ouvrage précédent, puisque c'est un panel global sur les adaptations ciné des maisons hantées, il y avait un côté, effectivement, drôlatique ou parodique. Alors, à l'extrême, hein, puisqu'on peut avoir vraiment, vraiment de tout. Néanmoins, effectivement, High Spirit, c'était un film de mon enfance que j'avais beaucoup aimé, que j'ai revu. Et je trouve qu'effectivement, dans l'ouvrage, je mets en avant, en exergue quelques films un peu comme ça. L'idée, c'était pas de faire la chronique de tous les films, mais certains méritaient, à mon avis, en ce sens, d'être mis en valeur. Et ce film de Neil Jordan, qui est vraiment un divertissement très sympathique, avec des effets visuels de l'époque, mais qui sont tout à fait intéressants, avec pas mal d'acteurs connus en plus. C'est un film vraiment très, très drôle, un peu dans l'esprit Beetlejuice, mais peut-être un peu moins délirant, mais avec des séquences totalement folles. C'est des films qui passent pas forcément à la télé ou qu'on revoit pas forcément et qui, pareil, qui mériteraient sûrement d'être revus.
Tu l'as dit, hein, vous parlez de beaucoup, beaucoup de films dans cet ouvrage, donc Home Sweet Home, les maisons hantées de la littérature au cinéma. Il y a plus de 300 films chroniqués. Et tu disais tout à l'heure que vous avez aussi, alors on parlait de High Spirit à l'instant, vous avez mis en avant aussi des films qui sont des films méconnus, oubliés, mésestimés. Dans tous ces films-là que vous mettez en avant, est-ce qu'il y en a un que, hormis High Spirit, bien sûr, que tu voudrais conseiller à voir absolument à nos auditrices et auditeurs?
Alors, effectivement, le panel est assez large. Il y a 300 films, à peu près, que j'ai pu déterrer. Alors, ils ne sont pas tous du même niveau, évidemment. Hormis les plus connus... Oui, alors il y a quelques films, plus connus. Moi, j'aime bien, il est sorti récemment, quelques temps, chez Rémini, un DVD, c'est Trauma, que tu dois connaître. Trauma de Dan Curtis, film de 1976, on dit aussi que c'est un film qui a été qui serait inspiré du Shining, de King, mais c'est un film assez déroutant qui mélange pas mal de thématiques, avec en plus un casting assez fou, avec Oliver Reed, on a aussi Bette Davis. C'est un film de maison hantée qui dans la partie maison hantée est vraiment très effrayant. Et puis c'est un film aussi assez dérangeant moralement par rapport à la vision sur les enfants. Mais il y a aussi un personnage, un chauffeur qui est complètement hallucinant qu'on voit aussi sur le sur certaines affiches. Et puis quand on cherche un peu sur l'histoire sur le film, on voit aussi les relations prétendues entre les acteurs. Oliver Reed qui était complètement alcoolisé en permanence, qui s'opposait à Bette Davis. Et puis la fin du film est assez terrible. Il y a des passages très très violents dans le film. Et la fin du film, alors je le révèle pas, mais qui a un lien directement, la mort des personnages de fin et un lien directement avec le réalisateur dont la fille avait subi le même sort quelques jours avant. Donc c'est un film, pareil, pas très connu, mais qu'on peut trouver en DVD, que moi j'ai beaucoup aimé. Sinon, après, dans un autre style, alors même si je suis pas, sur le found footage, des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de films dans Maison Hantée, dont j'en parle dans l'ouvrage, mais de tout ce qui est urbex, visite de lieux hantés, soi-disant hantés, avec des caméras portées. Voilà, donc il y a beaucoup de, j'allais dire, de mauvais films, parce que c'est pas toujours très intéressant. En revanche, moi, il y a un film que j'ai beaucoup aimé, qui sort un peu du lot, si, qu'on peut trouver aussi, qui date de 2012, qui s'appelle Deathstream, de Joseph et Vanessa Winter. Et c'est pas, et donc c'est toujours pareil, c'est un youtubeur qui a envie de se faire, qui a une émission et qui a envie de visiter un lieu hanté. Et donc c'est du très classique, hein, parce que finalement dans les maisons hantées c'est un peu toujours la même chose néanmoins. Et donc il va dans ce lieu-là, il se filme en permanence et puis il a ses followers qui le suivent. Et donc c'est un film assez fou, et parce que ce personnage-là c'est un vrai connard, mais en même temps on se prend d'affection pour lui et il lui arrive plein de péripéties. C'est à la fois très, très marrant et c'est à la fois aussi horrifique. Et donc voilà, c'est un film dans toute cette engeance de mauvais found footage, c'est un nom que je pourrais ressortir, voilà, qui est assez récent. Il n'y en a pas énormément. Après, sur les autres films, je ne sais pas, il faut regarder dans mon livre. Je pense qu'il y en a quelques-uns que... Après, on peut aussi avoir... J'aime bien le film Relique de Nathalie Erika James. C'est un film australien du 2020. Un petit film voilà, sorti un peu de nulle part avec une dame âgée qui se retrouve prisonnière de sa maison. Et puis, ses enfants viennent la voir pour l'aider. Et là, la maison commence à absorber littéralement... les protagonistes. C'est un film assez étrange et que j'ai beaucoup aimé. Et dans un autre film, pour terminer, un autre style, un film vraiment bis que j'ai découvert, s'appelle Beyond Evil de Ernst Fried en 1980. Et là, c'est vraiment un film avec, comme on peut en voir aux soirées bis de la Cinémathèque, je dirais, avec John Saxon. Voilà, un film assez étrange.
Après ces échanges avec Thierry Auger, auteur et éditeur de Home Sweet Home, les maisons hantées de la littérature au cinéma, je vous propose, chers auditrices et auditeurs de Culture Prohibée, d'aborder un auteur dont on vient de parler avec Thierry Auger, à savoir le maître, le king, c'est un peu facile évidemment, Stephen King. Stephen King d'ailleurs pour le prononcer exactement. Donc Stephen King qui est l'auteur en 99 d'une nouvelle en ligne en fait. Il vient d'avoir un accident à l'époque, Stephen King, et qui a failli lui coûter la vie. Il va écrire pendant sa convalescence Riding the Bullet. Alors un tour sur le bolide en fait, c'est une attraction, le bullet, la balle, c'est pas une balle de flingue, là c'est une attraction dans un parc d'attractions, c'est une sorte de grand mythe. Et la nouvelle va être uniquement disponible sur Internet par téléchargement payant, et puis après elle va être intégrée au recueil Tout est fatal. Donc on vous le conseille vivement, ça s'appelle Riding the Bullet, c'est signé Mick Garris, et c'est d'après Stephen King, et c'est disponible chez BQHL.
On dit que lorsqu'on frôle la mort, on voit sa vie défiler devant ses yeux, et c'est sans doute ce qui s'est passé pour notre Stephen King, qui du coup a décidé de parler d'une histoire d'horreur qui se tourne vers le passé. Alors c'est Mick Garris qui le met en 1969. De base, la nouvelle n'a pas de date, justement à mon avis pour garder ce côté histoire qu'on raconte autour du feu. Et Mick Garris, il va prendre cette histoire, il va l'étirer parce qu'il va y injecter beaucoup de personnel à l'intérieur. Donc, c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de courts-métrages. C'est notamment le créateur de la série Maître de l'horreur. Il a aussi fait la série Shining dont on a parlé. C'est quelqu'un qui s'est un peu spécialisé dans le Stephen King parce qu'il a aussi fait Le Fléau, qui est une autre nouvelle de Stephen King qui va également faire en série. Il a fait d'autres films comme Psychose 4 ou Critters 2. Mais ici, c'est intéressant parce qu'on se retrouve dans un peu un format... finalement, il a adapté beaucoup King en série et là, il en fait un film. Il lui donne un format assez particulier. J'ai envie de dire un gros mot. Pour moi, c'est plus un téléfilm qu'un film. Mais dans les œuvres de King, c'est souvent arrivé, mais il y en a qui sortent vraiment... du lot. Et ici, pour porter finalement sa version très personnelle, parce que, un, il le resitue dans le temps, et surtout, il va en faire une histoire qui va parler finalement du passé qui hante notre héros, comme tu l'as dit, Jérôme, qui s'appelle Alan, qui est joué ici par Jonathan Jackson dans son rôle principal, qui a une version très romantique, assez imaginée de la mort, où il se voit un peu comme le prince des ténèbres. Et toute l'histoire de fantôme avec l'appel qu'il va recevoir sur sa mère qui vient de faire un malaise ou un AVC, je ne me souviens plus. C'est quelque chose qui va le tourner vers le passé et finalement c'est une histoire de fantôme, et ça tombe bien parce que notre héros est finalement prisonnier de son passé, qui va énormément parler de nostalgie. Alors on est dans un film qui a un peu les défauts des films des années 90-2000 avec son sympa mal de jumpscare que je trouve... assez vide, mais c'est un film qui en fait a ce côté de prendre la route, qui est normalement un moyen pour aller de l'avant, pour ici tourner notre personnage vers le passé. C'est un héros qui est quand même pas mal dépressif, qui a des hallucinations un peu de lui-même, qui l'autoparle, qui lui sert de conscience et qui des fois le pousse, quelquefois d'autres le repousse. Et au final, ce film il parle d'apprendre à vivre et à aller de l'avant, mais pour que le héros y arrive, ça va lui prendre beaucoup, beaucoup de temps, ça va lui prendre quasiment tout le film. Il y a des éléments que je trouve qui fonctionnent extrêmement bien, notamment au niveau des plans. Il y a un passage où il y a un bus qui passe à côté de lui, c'est un bus avec des gens étranges dedans. Il y a tout le passage sur le conducteur mort qui est joué par David Arquette, que j'étais très content de voir dans le film L'Éternel Dewey de Scream. Mais il y a aussi d'autres éléments que je trouve intéressants, notamment la peur de l'Alzheimer de sa mère, qui est sous-entendue quand il fait le souhait qu'il aimerait bien aller à l'hôpital et qu'elle le reconnaisse. Et aussi tout ce côté peur de devoir s'occuper de quelqu'un avec qui on a grandi et de s'occuper derrière. C'est un film qui pose pas mal de pépites intéressantes, et je pense que le fait que ce soit un travail très personnel de Garris en fait en ressort dans son histoire.
Après, c'est un film, c'est pas le meilleur film de Garris. Alors, Garris, peut-être son meilleur film, c'est peut-être La Nuit Déchirée qui avait été primé à l'époque et qui est un film quand même très très efficace, une bonne série B, horrifique, bien sympathique. Garris, c'est un type adorable. Hein. Nous, on a pu l'interviewer deux fois, je crois, pour l'émission. Il est toujours très disponible, c'est un vrai passionné. Des fois, il est venu en France en fait. Mais c'est un vrai passionné de fantastique. Sincèrement, d'ailleurs, s'il a fait que du fantastique et un peu d'horrifique, c'est parce que c'est vraiment sa passion, quoi. Il adore le genre. Alors, c'est aussi un réalisateur qui est pas non plus, enfin, qui est un réalisateur assez classique en vérité. Voilà, qui dans sa mise en scène cherche à être efficace, cherche à faire une bonne série B. Il cherche pas à faire mieux que ça. Et là, ce film-là, il ajoute des développements à l'intrigue, puisqu'on est le sujet de l'émission, c'est du livre à l'écran. Donc, il ajoute effectivement des développements parce qu'il est scénariste du film d'ailleurs, Garris. Là, donc c'est vraiment, il rajoute des flashbacks par exemple qui n'étaient pas dans la nouvelle et des petits développements. Par exemple, à un moment, il y a des rednecks en pick-up. Là, ça s'est rajouté. C'est pas non plus dans le ce qu'a écrit Stephen King. Et aussi, il rend le personnage presque un peu plus mélancolique encore qu'il ne l'est dans les écrits de Stephen King. Mais il garde bien le côté, ce que tu disais, le côté un peu positif du film. Parce que c'est un film très mélancolique, c'est un film très triste. En vérité, c'est un film sur l'acceptation de la mort. C'est un film très étrange parce que le film a un côté bancal, quand même, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser par moment. On est dans quelque chose qui est à la fois émouvant. Ce personnage, tu l'as dit, il est un peu romantique, il est un peu
ouais, il se voudrait bien un peu gothique, romantique. Enfin, on est aussi à la fin des années 60. Donc, c'est pas innocent, c'est la fin des idéaux. Faut pas oublier que Stephen King, c'est un vrai mec de gauche. Hein. Et c'est un auteur très, très politique et qui se pose beaucoup de questions. Je vous invite à relire son bouquin dystopique sur comment... l'histoire d'un monde où Kennedy n'aurait pas été assassiné, JFK n'aurait pas été assassiné, qui en dit long sur les peurs qui habitent aussi Stephen King, et qui sont assez passionnantes.
Et qui a aussi été adapté en série. Après, le héros, c'est aussi un petit con de temps en temps, mais t'as raison, pour le coup, c'est un film qui invite à voir la mort d'un œil plus réaliste.
Ouais, c'est un film. Le final n'est pas du tout un film de film fantastique. C'est même pas un film de série B, c'est presque un final de petit film intimiste, de petit budget, parce que c'est un petit budget, ça se sent quand même à l'écran. Bah, tu dis que c'est téléfilm, c'est quand même sorti au cinéma aux États-Unis, mais on sent que c'est un petit budget, que Mick Garris, il a un petit budget. Ça ne l'empêche pas quand même d'avoir des idées de mise en scène, parce qu'on a parlé de la manière dont il a un peu modifié l'histoire. Enfin, il a ajouté, il n'a pas modifié l'histoire, il a ajouté des choses à l'histoire. Il faut que ça dure une heure et demie quand même. Mais... il a aussi fait des choses, par exemple, je trouve que le générique qui est constitué de vidéos familiales, c'est une très bonne idée de mise en scène. Et il y a une autre idée que j'aime beaucoup, c'est gonflé en fait en termes narratifs, c'est le dédoublement du personnage principal. Et pour raconter, plutôt que de nous claquer la sempiternelle voix off, et ça marche en fait, ça fonctionne bien. C'est assez fluide, c'est pas gênant quand on regarde le film. Donc, c'est une bonne petite série B, voilà. Mais c'est en même temps, le film a un petit côté mélancolique. Donc, ce Riding the Bullet, c'est un film qui a beaucoup de charme. C'est pas un grand film, mais c'est un film qui a beaucoup de charme, de Mick Garris. Et puis en plus, qui a la particularité d'être une adaptation d'un Stephen King un peu singulier, un peu à part, d'un Stephen King mélancolique, ce qui n'est pas toujours le cas chez Stephen King. Et puis, où il n'y a pas pléthore de personnages, on se centre surtout sur un personnage. Donc, c'est assez étonnant. Mon cher Damien, je vais recontextualiser un peu l'histoire du film, parce que le film ne se passe pas de nos jours, il se passe en 69. Et donc, c'est l'histoire d'Alan Parker. Il ne faut pas y voir d'analogie avec le réalisateur, hein, qui va rendre visite à sa mère qui vient d'avoir une attaque et il doit parcourir 200 km en stop. Et donc, c'est là qu'il va croiser un étrange individu qui est une sorte de personnification, d'incarnation de la mort. Donc, hein, mais donc en scène Mick Garris, c'est un film de Mick Garris, un des fidèles alcooliques de Stephen King. Et c'est un film d'ailleurs disponible chez BQHL.
Intitulé du livre à l'écran.
Autre salle, autre ambiance, j'ai envie de dire, mon cher Loup-Garou Picard, d'ailleurs, hein, film avec des chiens tueurs, c'est une affaire de, comme ça pour notre lycanthrope à nous, hein, et ça ne m'étonne pas qu'il se soit passionné pour ce film de Samuel Fuller, d'après donc un roman de Romain Gary, le fameux Romain Gary, auteur français, alors aussi célèbre pour avoir été le mari de Jean Seberg, et aussi pour avoir eu deux prix Goncourt en ayant un pseudo. Voilà. Donc c'est le fameux Émile Ajar, hein, si ma mémoire est bonne. Auteur passionnant, hein, parce que du coup, moi j'ai relu le bouquin là, pour préparer l'émission. On va y revenir de toute façon en détail, hein, mon cher Thomas. On est en 82 lorsque sort ce film-là, qui est édité par ESC dans une super belle édition d'ailleurs, qui s'appelle donc Dressé pour tuer en français, et non pas Chien blanc, puisque le bouquin c'est Chien blanc. Et là, le film de Fuller est une claque incroyable, mon cher Thomas, je crois qu'on peut dire ça, quoi.
En anglais, il respecte le titre original du livre, hein, c'est White Dog. Donc, qu'est-ce qu'un White Dog, un chien blanc? C'est un chien dressé pour s'attaquer aux Noirs. Hein. C'est expliqué dans le film, hein, ils expliquent bien dans le film. Alors, qu'est-ce que raconte le film? C'est une jeune actrice hollywoodienne qui galère plus ou moins, qui, un soir, où il fait nuit, sur les collines de Los Angeles, elle écrase malencontreusement un chien. Et donc, elle l'amène chez le vétérinaire, elle ne sait pas à qui est ce chien, elle ne connaît pas le propriétaire. Et puis, elle décide de le prendre avec elle. Voilà. Donc, elle prend le chien chez elle. Et un soir, bon, il y a un cambrioleur qui se pointe comme ça chez elle. Et le chien, évidemment, ne laisse pas faire parce qu'elle l'entend pas. Elle était occupée à autre chose. Il y a la télé qui hurle. Et donc, le chien s'attaque au cambrioleur, le met en fuite après l'avoir quand même un petit peu mis en pièce quand même. Après, plus tard, le chien s'enfuit. Hein, il s'en va comme ça. Et il revient le lendemain taché de sang. Alors elle se dit que c'est un chien d'attaque et qu'il va peut-être falloir un peu lui apprendre les bonnes manières, quoi. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'entre-temps, le chien a tué un homme, un noir qui travaillait pour la voirie. Donc ça, elle ne le sait pas encore. Et donc elle l'emmène chez un dresseur d'animaux pour le cinéma. Et là, elle dit voilà, c'est un chien d'attaque, je voudrais lui apprendre les bonnes manières, etc., etc. Et le chien, à un moment, voit un noir et il lui saute dessus. Et donc, le propriétaire de l'établissement lui dit « Mais ce que vous avez là, c'est un chien blanc. » Alors elle fait « Mais oui, je sais qu'il est blanc, le chien, parce qu'il est tout blanc, le chien. » Je dis « Non, un chien blanc, c'est quelqu'un qui attaque, c'est un chien qui attaque les Noirs. C'est spécifiquement dressé pour attaquer les Noirs. » Et donc, le film, c'est... Il y a Paul Winfield donc, qui se ramène, hein, qui a dit « Moi, voilà, moi je vais me donner tant de jours. En tant de jours, mon défi, c'est de dresser le chien à ce qu'il n'attaque plus les Noirs. » C'est le désapprendre à être raciste, etc. Et donc, le film tourne autour de ça, de comment ces personnages vont apprendre à redresser le chien. Donc, c'est un film qui parle évidemment du racisme. Le racisme, c'était un des thèmes de prédilection de Samuel Fuller. Mais c'est aussi un film qui parle de la haine aussi. Parce qu'il y a un retournement de situation à la fin que je ne dévoilerai pas. Mais c'est aussi un film qui parle de la haine. C'est un film quand même, qui est quand même assez nihiliste, qui... ne donne pas beaucoup d'espoir à travers le chien, à travers l'humanité, quelque part. Mais je crois savoir que... Moi, je n'ai jamais lu Romain Gary, ni Émile Ajar, mais je crois savoir que le livre d'origine n'est pas un roman, et n'est pas non plus une autobiographie, mais une sorte de témoignage, alors que Romain Gary se rendait à Los Angeles voir sa compagne Jean Seberg, une sorte de témoignage sur le racisme aux États-Unis.
Alors, c'est un livre un peu particulier, parce qu'il y a vraiment, si, il y a quand même cette histoire hein, du... Alors, la différence, Paul Winfield, c'est un humaniste, c'est un intellectuel, en fait, Paul Winfield, le personnage de Paul Winfield dans le film, qui est ce dresseur, ce zoologue qui veut inverser la tendance, on va dire, de ce chien, qui n'est pas sûr d'y arriver, hein, d'ailleurs, hein, il le dit dès le début, mais qui veut inverser la tendance. Chien qui, lors du final, qui est poignant, et chien qu'on aime, en fait, au bout du compte, hein, parce que ce chien, c'est une victime, hein, en vérité. Hein. Et comment dire, la différence, c'est que dans le livre, en fait, le livre commence par cette histoire de chien blanc, puis après, il y a tout un développement sur, effectivement, très sociologique, sur ce que sont les États-Unis, c'est-à-dire ces États-Unis... ces États-Unis du drame d'Altamont, ces États-Unis de la Manson Family, ces États-Unis de la fin des idéaux, des assassinats d'hommes politiques, du Martin Luther King surtout, parce que c'est l'assassinat de Martin Luther King qui motive aussi l'écriture du livre, en vérité. Hein. À la fois, il y a le fait de découvrir l'existence de ces chiens blancs et l'assassinat de Martin Luther King qui choque beaucoup Gary. Et il y a donc, tout le long du livre, il y a toute une radiologie de ce que sont les États-Unis, effectivement du racisme aux États-Unis, mais pas que, il va au-delà, il étend cela, c'est un regard presque de sociologue. Et puis la dernière partie du livre, on revient en fait sur ce dressage du chien, mais non pas dans le livre pour le désapprendre à être raciste. Dans le livre, c'est un Black Panther en fait, et il veut le dresser pour qu'il tue des blancs. Donc c'est pas la même chose en fait. Et dans le film, c'est différent. Ce personnage, d'ailleurs, c'est une super idée de Samuel Fuller. Samuel Fuller, on découvre dans les bonus, il y a sa fille qui est interrogée longuement, elle raconte plein de choses. C'est le film qui a fait qu'ils sont allés s'installer en France, puisque au départ, les producteurs voulaient une sorte de Dents de la Mer avec un chien. Enfin bon, voilà. Et puis, Fuller n'a pas eu toute. Par exemple, la fin est très proche du bouquin de Gary. Mais en même temps, il pervertit la fin du bouquin de Gary parce qu'il y a un deuxième climax dans le climax, j'ai envie de dire. J'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film. Qui, du coup, fait que le film va presque au-delà encore du bouquin de Gary, qui est un super bouquin. Fuller n'a pas pu totalement faire ce qu'il voulait, mais en même temps, il fait ce qu'il veut. C'est un film très personnel. C'est un film qu'il aimait beaucoup. C'est un film qui va être interdit de sortie aux États-Unis. Le sujet va faire peur et du coup, le film va sortir en France. Et l'accueil du film est tellement bon que Fuller va dire « Bon, moi, je m'installe en France. » Voilà. Après, il va travailler, il va faire un peu de film en France, tout ça et tout, hein, qu'on connaît. Et ce que j'adore dans ce film, en fait, c'est la mise en scène de Fuller qui est juste. Mais alors, je crois que c'est Truffaut qui disait qu'il n'y avait jamais de gras chez Fuller, en fait, qu'on pouvait. Qu'il n'y avait rien à changer. Quand on voit un film de Fuller, il venait de voir Verboten et il dit ouais, il n'y a pas de gras chez. Enfin, je ne dis pas ça exactement, mais il n'y a pas de gras chez Fuller, il n'y a rien à changer. Ouais, c'est incroyable. Même la colorimétrie du générique. Qui vient répondre à la colorimétrie du générique final. Tout est pensé, étudié, alors que ça n'a pas l'air, en fait. C'est-à-dire que si vous ne vous intéressez pas spécialement aux techniques de mise en scène, vous ne vous rendez pas compte parce que c'est une mise en scène très discrète. Mais l'usage des ralentis quand il faut, la manière de filmer... Il y a une scène aussi qui se passe dans une église. Scène d'ailleurs qui a motivé hein, le fait que le film ne sorte pas aux États-Unis. C'est ça qui a fait beaucoup peur au studio. Et cette scène dont tu parlais, Thomas, c'est ça que j'adore. Parce que quand même, faut rappeler qui est Fuller. On en a déjà parlé dans cette émission. Bon, j'adore hein, Samuel Fuller. Mais Samuel Fuller, c'était un humaniste. C'est un type qui a fait la guerre, qui a fait le débarquement, qui l'a rencontré dans son autobiographie qui est passionnante. Et c'est un type qui détestait les racistes, qui détestait. Et puis, un des premiers à avoir parlé du stress post-traumatique et qui a participé aussi à la libération des camps. Donc l'horreur humaine, la banalité du mal, il connaît ça par cœur. Et donc la banalité du mal, c'est aussi ce qu'on voit dans ce film à un moment, parce qu'on le rencontre, le propriétaire du chien, avec deux fillettes, ses petites filles. La scène, elle est glaçante, en fait. Il n'y a pas besoin de montrer des effusions de sang pour faire des scènes glaçantes au cinéma. Et puis, il y a la scène dont tu parlais, Thomas, que j'adore, en fait. Parce que, en fin de compte, il y a un universitaire qui l'explique dans les bonus, qui l'explique bien, d'ailleurs. En fin de compte, c'est assez surréaliste. La fille est dans son lit, l'actrice. Alors je dis l'actrice parce que c'est son métier, elle est actrice. Quoi, voilà. Donc elle habite une maison assez isolée quand même, une belle maison d'ailleurs, hein, assez isolée. Et il y a un cambrioleur qui vient chez elle et tout, qui en fait, dans la vraie vie, était le dresseur du chien. Il y a plusieurs chiens en fait dans le film et c'était le dresseur du chien. Et dans le, comment dire, il vient pour cambrioler puis agresser aussi cette jolie jeune femme. C'est une jolie jeune femme. Hein. Et le chien, il fait quoi, le chien, en fait ? C'est génial, la mise en scène. Il regarde un film de guerre. C'est un truc surréaliste, en vrai. Un chien ne regarde pas un film de guerre à la télé. Le chien est devant la télé et il y a un film de guerre. Et le film de guerre fait des bruits pétaradants. Et on voit le chien qui lutte. Il y a des trucs, il ferme les yeux, tout ça et tout. Et à un moment, il y a comme un stimuli, quelque chose qui se met en route. Et paf, il voit cette agression et il y va. Alors, elle le regarde avec d'autres yeux. Elle se dit, c'est un chien d'attaque. Mais en même temps, elle l'idolâtre. Elle l'aime, en fait, parce qu'il lui a sauvé la vie, quand même. Hein, ou tout du moins, il l'a sauvé d'un viol, quoi, d'une agression terrible. Et du coup, elle change de regard sur ce chien. Et en fait, on a tous très envie que ce chien s'en sorte. Mais en fait, c'est pas possible. C'est un film... Tout est inéluctable dans ce film. Et moi, je trouve que c'est un grand film sur le mal et sur la banalité du mal. Et je trouve que c'est un modèle de mise en scène. Enfin, je pourrais vous citer plein de scènes dans le film. Hein. La scène de l'église dont on parlait, la scène où à un moment le chien s'est évadé de l'enclos, il est dans la rue et on voit un gamin noir qui est là. Et on se dit, putain, il va bouffer le gamin. Et tac, il se passe un truc. C'est fort en termes de mise en scène.
Il y a un travelling quand même assez étonnant, effectivement, au niveau de la synchronisation de la mise en scène. Ce plan, moi, il m'a bluffé, quoi. Mais c'est aussi un film, comme tu dis, il n'y a pas de gras, quoi. Il a tout d'une petite série B, très, très efficace, pas de gras. C'est un film, on pourrait dire, à thèse, hein, c'est un film engagé contre le racisme, etc. Mais en même temps, Même s'il s'est battu contre les producteurs pour faire un film genre Les Dents de la Mer, il y a quand même une écriture de film d'horreur. C'est-à-dire, régulièrement, il y a quand même des meurtres qui sont commis par ce chien-là, qui en fait est inconscient de ce qu'il fait. Hein. Lui, il fait juste ce qu'on lui a appris à faire, c'est-à-dire attaquer des Noirs, quoi, et voir les tuer, quoi. Mais même la scène où il attaque l'agent de la voirie, là, elle est vachement bien, elle est très bien découpée parce que en fait il ne le voit pas le chien vu que c'est dans le noir, on est dans la nuit et lui c'est quand il allume un cigare qu'il est au volant de son espèce de tracteur là, quand il allume son cigare là le chien le voit et il lui saute dessus. C'est vrai que c'est un modèle de découpage et de mise en scène ce film et je pense que c'est l'un des meilleurs de Samuel Fuller d'ailleurs.
Et donc ça s'appelle Dressé pour tuer, vous l'avez compris hein, pour moi. Je pense qu'on peut qualifier de chef-d'œuvre hein, quand même. Hein. C'est un très très grand film. Hein. Pour moi, c'est un film à voir absolument. Il est disponible chez ESC, donc Dressé pour tuer de Samuel Fuller, d'après le livre Chien blanc de Romain Gary. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine !